Or, premier signe du retour, c'est que c'est, comme dit Rachid, Yahav et Yahazaka. C'est pas que quelqu'un a trouvé une pâquerette à six pétales et il a dit c'est le temps messianique. C'est pas ces signes-là qu'on cherche. Ça, c'est les signes de la conscience magique. Vous comprenez le problème. C'est le signe du retour, c'est quand Dieu le permet, ensemble et avec force. Et vous voyez la différence de nature entre le mouvement sioniste et tout le mouvement messianique. Ce qui signifie que, ça il faut se brancher sur une des analyses qu'on a eues au deuxième cours, je pense. S'il y avait eu le mérite de avant le temps, le mouvement messianique en question aurait pu réussir à l'échelle nationale. Mais le signe qu'il n'a pas réussi, c'est qu'il n'était pas à l'échelle nationale. Et c'est ça le manque de mérite, que ce n'était pas à l'échelle nationale. Ça veut dire qu'Israël ne méritait pas l'événement national. Est-ce que c'est clair? Et par conséquent, c'était voué à l'échec. C'était dans la dimension Zaha Ahishena. Vous vous rappelez l'analyse? S'il mérite avant le temps. Alors, ça veut dire que même le Sabbaté, il n'aurait pu réussir. Mais comme il n'y a pas eu suite de la nation, comme telle, ça a échoué. C'était les Sabbatéens qui sont entrés. Et alors, ça a échoué. Vous avez compris le problème? Alors, on peut continuer? Comment Rabbi Yehuda va répondre à ça? Il va le dire, si vous suivez, « Ishvarti aharinakti, j'ai un autre Ishvarti. » C'est pas celui-là que je te pensais. Vous suivez? Et vous suivez en même temps l'exposition pédagogique même de la Gemara. Et qui c'est ce Ishvarti aharina? Eh bien, c'est le deuxième que vous avez au chapitre 3, verset 4. Mais Rabbi Zera, alors Rabbi Zera doit répondre maintenant, il va prendre le taureau par les cornes, il va répondre aux trois versets à la fois. Vous suivez la formulation du raisonnement. Rabbi Zera cite un premier verset. Rabbi Zera lui dit, ah ça, c'est la Homa. Alors Rabbi Zera lui dit, mais j'en ai un deuxième. Ah, il dit, bon, j'en ai un deuxième, j'en ai même un troisième. Et même ces trois, c'est six. Parce qu'il y a une fois Taïrou, une fois Taïrou. Alors c'est six, je vais te donner les six d'un coup. Okay? Et pour lui dire, ça ne me concerne pas. Moi, c'est ma halakha individuelle avant le temps. Et en même temps, il dévoile quels sont les six signes du temps. Ça y est, ça va? Premier signe, on l'a déjà appris, c'est Tzvahagana l'Israël. Je ne vais pas dire ça autrement. Okay. Le deuxième signe, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, on va les suivre. Alors, je voudrais quand même qu'on les apprenne pour eux-mêmes, et donc je ne vous promets pas qu'on va voir les six ce soir. Peut-être on va voir le deuxième ce soir. Enfin, mais à ce moment-là, de façon de pouvoir étudier profondément, à ce moment-là, discuter avec vous-même, avec moi, quand je veux dire, poser les questions qui se posent à vous, de telle sorte que ce soit assuré, que ce soit bien clair. Pour le premier signe, c'est bien clair? Le premier signe, encore une fois, c'est très simple. C'est la première fois qu'il y a un mouvement national. Et on peut discuter de la nature nationale du mouvement sioniste. Mais c'est son essence. Je vous rappelle une formule de la... Alors, ce n'est pas du tout l'essence du mouvement messianique mystique. C'est clair? Et cet argument que je vous donne maintenant, je tiens du Rafouk. C'est le mouvement messianique mystique. On a désigné un messie et on veut lui faire remplir un programme. Alors que le sioniste, c'est l'inverse. Le programme se remplit. Donc, c'est Dieu qui le fait. Et le messie est à la tête. Alors, on va demander, qui c'est? Ça, c'est un autre problème qu'on étudiera. Qui c'est? Ça n'entre pas dans le sujet. Qui c'est? Parce que ce qui s'est fait, ça s'est passé sans quelqu'un. Donc c'est ce quelqu'un. Le problème, c'est qu'il n'est pas dévoilé en tant que tel. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est parce qu'on ne mérite pas. On verra d'autres textes là-dessus. Vous avez compris le problème? Je voudrais beaucoup insister là-dessus. C'est qu'il faut démythologiser la notion de Messie telle qu'on l'a héritée des chrétiens. Okay? Et pour cela, commencez d'abord par établir une distinction très soigneuse entre Machar Ben Yosef, du rassemblement des exilés, et Machar Ben David de la résurrection, et ne pas cumuler les deux. Est-ce que c'est clair jusque-là? Vous avez bien compris? Quand on arrivera au Machar Ben David, on verra pourquoi il y a pu y avoir confusion avec la formulation chrétienne. Et Machar Ben Yosef a une fonction très précise. D'abord, il y en a plusieurs. D'abord, et là je vous donne la référence, c'est un enseignement du Gaon de Vilna, dans Atkoufa Agdola, le collateur, dans les cours suivants, on ne s'en occupe pas. C'est d'abord le rassemblement de l'Église. Or, celui qui ne voit pas que c'est la première fois depuis 2000 ans qu'il y a ce que nous appelons rassemblement des exilés, c'est-à-dire de partout les Juifs proviennent, et ne voit rien du tout. Alors, c'est pas nécessaire de continuer à parler avec lui, parce qu'il ne voit pas. Okay? C'est clair. Ça n'a rien à voir avec les Aliyot à travers 2000 ans, et je vous explique les dernières. Ça n'a rien à voir. C'est un mouvement national de déconnexion de tous les Galayot. Ceux qui ont étudié avec moi la Gemara, qu'on a fait avant Pessah, vous vous rappelez, sur la Mishnah de Rabbi Elazar ben Azaria, vous vous rappelez du verset de Jérémie, je vous ramènerai du pays du Nord et de tous les pays. Vous vous rappelez de Nicolas. Or, il est bien évident que il y a des prismes qui empêchent de voir que c'est une différence de nature, le rassemblement des exilés contemporains et tout ce qu'il y a pu avoir comme montée personnelle, individuelle à Jérusalem et dans un héroïsme terrible à travers 2000 ans où il fallait des mois de voyage avec tous les risques sur la route et la misère et les périls et tout le reste. Rien à voir. Est-ce que c'est clair? Ça ne veut pas dire que les alliés sionistes n'ont pas eu leurs difficultés propres, mais c'est les difficultés d'une alia à l'échelle de la nation, et non pas. Alors, encore une fois, pour ceux qui ont assisté à la conférence de la Beth Yoshua, je ne sais pas si je vous ai dit à quoi je pensais, je vais vous dire maintenant, c'est ceci, c'est que il avait dit une phrase qui m'a beaucoup frappé, que j'ai gardé dans ma mémoire, en tant que mouvement national, ce n'est pas le sionisme qui a échoué, c'est le peuple juif. Vous vous rappelez de ça? Et je sais que ça alimente beaucoup la discussion dans les journaux, même dans les revues de la diaspora, qu'un des signes de l'échec du sionisme, c'est qu'il se définit a priori comme étant le retour des juifs, or, ce n'est pas tous les juifs qui reviennent, donc il échoue. Alors, il faut retourner ça. Ce n'est pas lui qui échoue, c'est les juifs. Est-ce que c'est clair?
Une question oui. Par rapport aux aspects qui sont cités ici de Yeriaou, quand je ne m'en rappelle
pas, dans l'autre discussion.
Il s'agit ici,
des Kelim.
Mais nous savons d'abord qu'en ce qui concerne les Kelim, qui ont été pillés du premier temple, les Kelim essentiels ont déjà été cachés au préalable. D'après la Midrash, nous savons qu'ils ont été cachés en Israël. Et donc, ces Kelim dont il s'agit, ces Kelim principaux, c'est pas à Babel, c'est trouvé ni avant. C'est ici. Il s'agit de les trouver. Donc, même à ce niveau-là, il y a un problème.
J'entends bien. Vous avez compris l'objectif. N'oubliez pas que le verset de Jérémie concerne les Kelim du premier temps.
Oui, mais ce sont ces Kelim-là qui ont été cachés.
D'accord. 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 Mais notre discussion, elle est après la destruction du deuxième temple. Et on se sert pour une discussion. Jérémie, mais la discussion de Rabbi Yehuda Ben Zera, c'est après le deuxième temple, pas après le premier. C'est-à-dire, cette discussion se sert des arguments basés sur les versets parlant de prophéties concernant l'équilibre du premier temple. Le raisonnement formel reste le même. C'est-à-dire, son objection tombe dès qu'on remet la discussion dans son époque historique. Si la discussion avait lieu. Dans l'exil du premier temple, alors que les Kélim sont déjà revenus, tu aurais raison. Mais on parle ici de la destruction du deuxième temple. Oui. Alors voilà, au début, beaucoup de gens ont cru que ce n'était pas un imposteur. Bon, il y a deux choses parallèles. Il y a l'analyse psychopathologique de Shabbatai Tzvi, et ensuite l'analyse de l'événement sociologique. Pouvez-vous baser d'ailleurs sur un livre important de Scholem là-dessus, sur Shabbatai Tzvi, quoique personnellement je ne coïncide pas ni avec sa méthode, ni avec son attitude, ni avec certaines choses qu'il dit, mais je crois que c'est l'ouvrage le plus sérieux sur la question, du point de vue de la question que tu poses. C'est ceci. Au début, on ne croyait pas que c'était un imposteur. Et beaucoup de rabbins l'ont suivi. Justement, un des mérites de Scholem comme historien, c'est de mettre l'accent sur le tabou dans la mémoire du peuple juif sur le sabbatéisme. Il explique à sa manière, en disant qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait une telle erreur, qu'on a eu honte de cette erreur, on a voulu l'oublier. L'explication des rabbins est tout autre. C'est qu'il y a eu de tels massacres entre juifs à propos du sabbatéisme, que ça a été une catastrophe telle que cette catastrophe des massacres de juifs entre eux, les sabbatéens et les anti-sabbatéens, a été tabou. C'est un peu différent. Vous comprenez une chose dans l'autre. Et je comprends très bien que la sensibilité de l'historien est plus sensible à la première explication. Mais il y a l'autre qui est plus important. Quand j'ai eu à rapatrier les archives de ma communauté en Algérie, on a rapatrié la Gnisa qui avait dans les sous-sols de la synagogue, et j'ai trouvé les manuscrits de Piyutim de Abdallah du Shabbat soir des Sabbatéens, qui étaient dans la Gnisa de la synagogue. Je veux dire que même jusqu'à un petit trou d'Algérie, il y avait deux communautés rivales qui se battaient et qui s'entremassacraient, les Sabbatéens et les autres. Et finalement, comme c'était écrit en hébreu, on les mettait à la Gnisa, leur sidourim. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils faisaient rimer Shabbatai Tzvi avec Eliyahu HaNavi. Vous avez vu ça. Bon, tout ça, je vais le donner à la Gnisa ici, mais pour vous dire qu'il y a eu, et ça, ces catastrophes-là, ça fait phénomène tabou, je ne sais pas, c'est peut-être allemand, mais phénomène d'oubli. Parce qu'il y a eu vraiment une guerre civile dans le peuple juif. C'est ça qu'on a oublié surtout. Mais je reviens maintenant à ta question. Je crois qu'il faut inverser le raisonnement pour la comprendre. Pour le comprendre. C'est que je vais essayer d'expliquer la formulation des rabbins qui ont suivi Sabbatai Tzvi au début, sachant qu'ils étaient complètement fous. Mégalomanes. Et ensuite, ça s'est beaucoup plus dégradé, il est devenu pire que mégalomane, déréglé complètement. Ce qui les intéressait, c'était que grâce à ça, on va amorcer la Aliyah. Comme la nation n'a pas suivi comme nation, le peuple n'a pas suivi comme nation, parce que ses chefs, non seulement ne voulaient pas suivre Sabbatai Tzvi, mais ne voulaient pas quitter l'exil. L'ambivalence a joué simultanément. Alors, Sabbatai Tzvi a échoué. Est-ce que c'est clair? Et en particulier, je vous citerai Nathan, le rabbi Nathan de Gaza, qui s'appelle par hasard Rabbi Nathan Ashkenazi, et qui était un des principaux sabbatiens, et qui le dit clairement. Il dit ce qui nous intéresse, il dit, c'est que les Juifs viennent en Eretz Israël. Et Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut. Je reviens ici. Ce qui a échoué, c'est le mouvement national. Alors le sabbatisme a échoué. Et ça s'est dégradé en une hérésie que vous connaissez, si vous étudiez ces problèmes. Et c'est le peuple qui fait l'événement. Ah, Miatsan et Mitzray. Moïse sans le peuple, on n'aurait pas raconté cette histoire. Mais le peuple sans Moïse, il n'y aurait pas eu l'histoire. Seulement, l'autre facteur n'a pas joué. Pas seulement dans le sabbatéisme, mais dans les autres mouvements aussi. Créou béni, prince de Juifs, etc. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est ça que nous devons, au Rav Kook, qui nous a aidé, qui nous a fait diagnostiquer cela, la dimension clave, nation du mouvement sioniste, même si elle n'apparaît que par délégation de l'élite et des pionniers, c'est en tant qu'ils représentent la nation qu'ils ont fondé ce mouvement-là. Alors que le mouvement sabbatéiste était de type religion non juive. On met en commun une foi individuelle. Alors que dans le mouvement sioniste, c'est l'inverse, c'est juif. En ce sens que c'est le klal et les individus se rattachent positivement, négativement. Mais c'est le klal qui se déclenche. Est-ce que c'est clair? Et je dois dire, moi j'ai même vécu cela pendant la première période de ma vie, c'était pas diagnostiquable. Il a fallu que nous ayons des grands maîtres comme le Rav Kook qui nous ont permis de diagnostiquer. C'est-à-dire, on peut comprendre la position des rabbins antisionistes au début. Mais après, les événements se sont dévoilés, il faut être, comme disaient les Latins, errare humanum est, persevere rare, rare. Vous connaissez la suite. Bon. Il ne savait pas dire, mais ça veut dire qu'il dit diabolico, c'est Maas et Satan. Voilà pour le premier signe. Alors, quand Rabbi Yehuda lui objectait, Ishbarti Aharina, Yeshli Ishbarti Aher, Aharina, alors Rabbi Zera, Hahou me ba'ele que de Rabbi Yose. Là, il va citer l'enseignement complet de Rabbi Yose. On va le suivre. Il va récapituler les six signes en deux moments dialectiques, comme nous allons le voir. Alors, on va lire tout jusque vous, et je reviendrai sur le deuxième signe ce soir. Que de Rabbi Yose ve Rabbi, c'est l'enseignement de Rabbi Yose ve Rabbi Hanina, fils de Rabbi Hanina, de Amar, qui a dit ceci. Shalosh v'ot alalu, ces trois serments. Et rappelez-vous qu'il s'agit d'abord de trois versets sans tenir compte de la répétition. Alors il y en a trois. Il y en a d'abord trois. Et c'est pourquoi dans beaucoup de textes, vous verrez que ce thème est intitulé les trois serments. Et on laisse de côté les trois autres. En réalité, il y a six serments et pas un, celui de Rabbi Zera Roma, et pas trois, ceux de Rabbi Yossé. Il y en a six, okay, comme nous allons voir tout à l'heure. Six et un septième. Alors je vais d'abord tout lire et on reviendra sur l'analyse du deuxième signe. Diama, qui a dit, Rabbi Yossé de Rabbi Hanina avait dit, Shalosh et Vot alalu lama, ces trois serments pourquoi? Ahat, un, Shelo, Ya'alu Israël Behoma, celui qu'on a déjà appris. Qu'Israël ne revienne pas en muraille. Ça va jusque-là? Bon. Ve'ahat et l'un, chez Ishbiya, Akadosh Baruch Hu et Israël, que Dieu a adjuré Israël, chez l'eau imredou be'umot ha'olam, qui ne se révolte pas contre les nations du monde. C'est-à-dire, qui ne décide pas le Bahoma contre la vie des nations. C'est-à-dire, non droit de revenir ensemble et prêt à faire la guerre si c'est nécessaire. Et rappelez-vous l'histoire du sionisme. Ce n'est que parce que c'était nécessaire qu'on a fait la guerre. Je crois que là, encore, le symbolisme des mots est très fort. Que, d'emblée, instinctivement, l'armée d'Israël s'est appelée Tzva Hagana l'Israël. Je crois que c'est pas que de la sémantique. Vous comprenez le problème. Et quand on relit l'histoire de cette première période, depuis les années 17, depuis l'année 17, on sait très bien que c'est comme ça. Alors le deuxième signe, c'est que, et cette manifestation, cette tofa'a, que ça y est, en fin de compte, le peuple s'est décidé à revenir ensemble à l'échelle nationale, que ça ne soit pas en révolte contre les nations. Bon, et là, je pense que ce n'est même pas la peine d'analyser en détail, mais peut-être si c'est nécessaire, on y reviendra. Je vous rappelle simplement le thème global. Chaque fois qu'il y a une sortie d'exil, il fallait qu'il y ait le feu vert de l'autorité politique universelle du temps. Premièrement, la sortie d'Égypte, tant que le pharaon n'a pas dit OK, c'était pas OK. Deuxièmement, Cyrus, vous rappelez de cela. Troisièmement, de notre temps, je le rappelle très très rapidement, la première fois qu'une instance supranationale, ou disons de prétention supranationale, est apparue, c'était au moment où on en avait besoin pour donner le feu vert au mouvement syrien. C'est la déclaration de Balfour avec la SDN. C'est clair, j'espère. Ça, c'est un thème pour lui-même, que nous étudierons pour lui-même. Et alors, je vous donnerai des références de grandes autorités d'Europe juive, rabbinique, qui se sont appuyées sur la déclaration Balfour pour dire le serment est tombé, puisqu'ils ont donné le OK, puisqu'ils ont donné le feu vert, c'est pas Mérida. C'est clair. Je pense au titre du livre de Begin, à Mérida. Okay. C'est pas cette Mérida interdite par la Gemara, c'est puisqu'il y a la déclaration Balfour. La déclaration sans remous, c'est-à-dire l'enregistrement par la SDN de la déclaration Balfour. C'est pas la déclaration Balfour elle-même, mais c'est la SDN. C'est clair jusque-là. Ça va jusque-là, donc c'est un thème pour lui-même, tu pourras comprendre pourquoi il faut attendre ce feu vert d'égoïsme. Mais en tout cas, on ne peut pas ne pas diagnostiquer cela, que chaque fois, il faut qu'apparaisse l'instance politique universelle pour qu'Israël ne soit pas en situation de Mérida en décidant de revenir Bechoma. Vous voyez donc l'organisation des deux. C'est clair jusque-là? Donc, alors je continue. Ve'achat est le troisième signe. Chez Ishbiya, Akadosh Baruch Hu, à Ondé Kohavi, que Dieu a fait jurer les idolâtres, chez lo ishtabedu bahen ve Israël yotermidai, qui n'asservissent pas Israël trop. Yotermidai. Pourquoi? Parce que s'ils asservissent Israël trop, alors le serment d'Israël tombe. Le serment d'Israël d'attendre le temps, corollaire d'un certain état de la civilisation universelle, tombe. J'anticipe un peu sur l'explication en fonction de l'exil par rapport à l'universel humain. Ça veut dire que, ici, on donne l'exemple d'une halakha très précise. Le lien entre un esclave et son maître. Et si le maître cause un dommage physique grave à l'esclave, il est libéré. Vous connaissez cette loi de la Torah. Ça veut dire que les choses sont corollaires. Ça veut dire, si l'égoïme observe leur serment, Israël doit observer le sien. Si l'égoïme n'observe plus leur serment, Israël est délié du sien. Alors, quelle est la motivation? Pourquoi l'égoïme ont juré de ne pas trop persécuter Israël? Là, j'expliquerai déjà un peu ce soir, parce que c'est plein d'humour. Après, ça veut dire pas trop persécuter Israël. Alors, ils ont la persécuté. la permission de nous persécuter, mais pas trop, de quoi il s'agit. Et ça, ça, il faut quand même le comprendre, c'est que le mouvement sioniste, encore une fois, est apparu à l'occasion d'une aggravation de persécution qui dépassait le niveau permis de la persécution. Et ce n'était pas la Shoah, hein, c'était avant. C'était les pogroms d'Europe centrale et d'Europe orientale. Et c'est là que ça, on peut donner dans d'autres références, et c'est là que la volonté de mettre fin à l'exil. C'est la raison. Une des raisons. La deuxième raison, c'était l'accélération de l'assimilation. C'est ça, c'est la deuxième raison. Vu aussi de notre côté. C'est ça. Alors, simplement, ce que je veux déjà mettre en évidence, c'est que dans ce premier groupe, des trois serments, je vous les rappelle. Premièrement, Kehoma, maintenant on peut le dire en hébreu, Kehoma. Deuxièmement, Mérida. Troisièmement, Yoter Midai. Ça joue ensemble. C'est un premier faisceau de conduite. Alors il n'y a pas de doute que, de notre temps, ça joue ensemble. La Shoah n'est venue qu'après. C'est clair? Le Rav Yehuda, comment il va répondre à ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire à Bezerra? De nous rappeler le premier groupe de trois signes de ce que disaient les versets de Rabbi Yehuda lui-même, c'est-à-dire à Yom Pukdi, à Shatarta, et que ça concerne la fin de l'exil à l'échelle collective, nationale. Or, Rabbi Yehuda a encore besoin d'arguments pour empêcher Rabbi Zera de faire sa liée individuelle. Vous vous rappelez de ça? Bon. Alors, Rabbi Yehuda répond. Et c'est extraordinaire de voir, c'est même aveuglant de précision, la systématisation de la structure du thème. Okay. Il répond « Im ta'iru v'im ta'oreru k'tiv » Dans chaque verset, il y en a deux. Ça veut dire « J'ai encore trois cartes à jouer contre toi. » Parce qu'il y a « Im ta'iru » et « Im ta'oreru » dans chaque verset. Vous
voyez ? Mais ce que Rabbi Yehuda ne comprend pas du tout, que Rabbi Yehuda comprend ce que veut dire Rabbi Yehuda, et que Rav Yehuda parle d'autre chose, du droit de l'individu. En fait, oui. Que Rav Yehuda va lui citer des choses au niveau de la nation.
On a discuté de ça tout à l'heure. Okay. Ça veut dire que, encore une fois, nous allons voir qu'à la fin des six réponses de Rav Yehuda, Rav Yehuda a sauté. Okay. Mais la Gemara va profiter de ça pour nous exposer la structure de ce thème. C'est ça que j'avais dit. C'est ce qui va nous dire. Ceux qui sont un peu familiers à l'étude talmudique, c'est comme ça dans tous les sujets. Est-ce que c'était ainsi? Vous pouvez peut-être le formuler comme ça. Tout se passe comme s'il avait mordu. Si tu arrives de te trouver dans la situation de Rabbi Zera, et ça mettrait donc ton maître dans la situation de Rabbi Zera, voilà comment ça se passe. Okay? Est-ce que c'est clair? Et à travers cela, la Gemara nous dévoile ce qu'elle veut nous dire. Voilà les signes de la fin des temps. C'est ça. Je pense que c'est bien clair. Alors, Rabbi Yehuda lui dit, « Imtaïru, imtaïru, j'ai encore trois cartes à jouer, je ne sais pas comment j'ai dit ça, c'est ça. » Mais Rabbi Zera, alors Rabbi Zera lui répondra, « Mais bah, elle est, qu'est-ce que de Rabbi Lévi, l'enseignement de Rabbi Lévi ?»« De Amar, chèche, vous la loue, la mali. » Et c'est six serments, pourquoi? Vous voyez bien que la Gemara aurait pu commencer par les six serments, donc c'est qu'elle a des étapes pédagogiques. C'est très clair, hein? C'est une structure qu'elle développe. Et c'est si serment, pourquoi? Talta, Tané, de Amram. Les trois premiers, c'est comme on l'a déjà dit. Inar, Shelo, Inar, les autres. Premièrement, donc le quatrième, Shelo, Iglou et Také, qui ne dévoile pas le moment de la fin de l'exil. Alors ça, on aura un cours entier là-dessus. Ça veut dire que tout se passe comme si, la Gemara nous dit, que Israël, en partant en exil, savaient quelle était la date de la fin, mais qu'ils ont juré de ne pas la dévoiler. Est-ce que c'est clair? Et regardez Rachid Tuki sur chez le Yehuda. Et là, je vous citerai des citations du Grand Devin en particulier, mais d'autres, où on voit qu'il connaissait la date, puisque la date qu'il nous donne, c'est la date précise de Hakamat Medinat Israël. Et c'est des livres qui sont écrits depuis des centaines d'années, ils ont donné cette date, je vous en ai les citations, ils l'ont caché. Alors, qu'est-ce qu'a dit Rachid? Un Neviim, c'est vrai. Les prophètes parmi eux. Il nous dit quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, pendant tout le temps de l'exil, il y avait des prophètes. C'est Rachid qui parle. Alors, qui c'est ces prophètes? Hein? Exactement. Le Kabbalistes. Tout simplement, qui sont les disciples des prophètes. C'est-à-dire qu'ils savent lire les prophètes à la manière des prophètes. C'est-à-dire qu'ils comprennent les signes qu'ont donné les prophètes. Parce que les Kabbalistes ont appris des versets des prophètes. Quelle était la date de Yom HaSmaout? Alors, là, je vous fais une petite parenthèse, vous êtes déjà habitués. Ça donne le vertige. Okay? Mais toute la Torah donne le vertige. Le verset, Vaïdaber Hashem et Moshe les morts, ça donne le vertige. Ça y est, c'est clair? C'est pas plus vertige que la Torah elle-même. Ou alors c'est qu'on ne croit pas en ce qu'on croit quand on dit que la Torah est révélée. Est-ce que c'est clair? Et là, il faut quand même expliquer. C'est un vertige tellement énorme que nous avons traversé l'histoire comme ça, en se cachant. Quoi, c'est vrai que c'est vrai? C'est trop. Non seulement c'est vrai, mais c'est vrai que c'est vrai. On a peur de ça. Et alors, on a pu traverser l'histoire quand, avec humour, comme en niant cela avec humour. Parce qu'effectivement, si on rencontre ça face à face, ça donne le vertige. Est-ce que c'est clair? Bon, mais on peut l'expliquer de mille manières. Seulement, énormément de juifs sont tombés dans le piège de ce vertige. C'est-à-dire, à force de ne pas oser y croire, ils n'y ont plus cru. Est-ce que c'est clair? À la Torah elle-même. Je me rappelle d'un grand philosophe que je ne vous citerai pas, qui me disait, c'est difficile. Quoi? Ça, ce verset, et Dieu parla à Moïse. Quoi, il parle, Dieu? Vous voyez, sa difficulté de philosophe. Quoi? Un Dieu qui parle? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Et alors, si c'est vrai ça, et Dieu parla à Moïse, l'incarnation aussi, ça peut être vrai. Alors, pour pas l'incarnation, pas Moïse. Vous comprenez le processus? Ça ne veut pas dire que ces juifs-là ne sont pas pratiquants. Ah, ils pratiquent. Ça, ils sont à l'abri de la discipline de la pratique. Mais la révélation, Dieu préserve. Pourquoi? Il faut bien comprendre pourquoi. Parce que ça donne le vertige. Est-ce que c'est clair? On peut expliquer, mais je pense que c'est clair. Ça veut dire que c'est pas qu'on n'a pas, on n'ose pas croire que Dieu a parlé. On n'ose pas croire que c'est à moi qu'il a parlé, moi, Israël. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiance en soi. Ce n'est pas le manque de confiance en Dieu. On peut faire de l'incertation dessus, plein de confiance. Mais on a peur d'avoir à croire qu'on est vraiment cet Israël à qui Dieu parle. Est-ce que c'est vrai? Parce que si on n'est pas assez solide pour tenir le coup, alors il arrive ce qu'il arrive à Shabbat Haïtzvi. On va se prendre pour celui. Vous avez compris? C'est ça le piège du juif. Ça veut dire, alors si c'est vrai, peut-être c'est moi. Vous savez, alors comme on a peur de ça, finalement on met tout en congé et on s'abrite derrière le chevronneur. Ça y est, ce que je dis à tout faire. Alors, le oui, j'ai pas compris, expliquez-moi le nom quand même.
Je veux dire que ce que vous dites, c'est peut-être.
Tout à fait.
Mais
ça n'est pas clair,
pourquoi n'ont-ils pas parlé quand même? Alors c'est la
fausse. Ah, ça j'y arrive. Et ça, j'ai pas parlé.
C'est un peu comme, je ne me rappelle plus quel grand rabbin a dit à propos des éléments de la fin des temps, je voudrais y être et j'ai peur d'y être.
Ça se rattache à ça. Ça, c'est une référence qu'on étudiera dans 2 mois, à peu près. Et la référence, c'est Yatib et Lachminé, qui viennent, mais que j'y sois pas. Parce que je risquerais de me trouver dans la situation d'un Israélien. Tout simplement. C'est ce que ça veut dire, on verra en ce moment. Bon, alors je reviens au problème. Imaginez la différence d'être ministre des Finances du roi du Portugal et être ministre des Finances de Mgr Begui. C'est ça qu'il avait peur. Bon, on verra un peu plus en détail à ce moment. Mais là, j'arrive à la réponse à votre question. Il y a 2 réponses qui nous sont données par les commentateurs. D'abord pour Israël lui-même. Parce que nous avons notre équation de départ, Zachar Hishena. si tu mérites, ayom im bekolot tishmaou. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, demain, aujourd'hui. Mais il y a l'autre éventualité, l'ozacha beita. Il n'y a pas de mérite, c'est en son temps. Alors ceux qui savaient en son temps quand c'est, ne pouvaient pas leur dire. Ils avaient vu que Israël, on a vu dans le troisième cours d'introduction, que le peuple d'Israël se dirigeait vers l'autre dimension, c'est-à-dire en son temps. Vous vous rappelez de ça, je ne reviens pas sur cette année. C'est pourquoi de plus en plus, les textes apocalyptiques prennent le pas sur les textes de l'eschatologie merveilleuse. Vous vous rappelez de ça, hein? Parce que les rabbins voyaient que les juifs avaient choisi finalement la dimension en son temps. Et comme ils connaissaient la date, comme dit Rashi, on ne pouvait pas dire aux juifs qui attendent, attends, ça arrivera en 1948. Qui allait attendre 1948? Vous suivez? Ça veut dire que la patience risquait de s'effondrer. C'est évident, on ne peut pas dire à quelqu'un, attends ce que tu attends, mais ce n'est pas pour toi, c'est pour ton arrière-descendant du temps de Ben Gurion. Qui allait attendre? Ça, c'est la première raison. Est-ce que c'est clair jusque-là? La deuxième raison concerne l'égoïsme, le contrat de travail avec l'universel humain. Est-ce qu'on pouvait dire à l'universel humain, nous sommes vos avadim, nous sommes vos juifs, mais jusqu'à 1948, même pas plus. Je vous donne un flash sur le Sanhédrin de Napoléon. Est-ce que la communauté des juifs de France, les notables, pouvait dire à Napoléon, d'accord, mais que 1948, il aurait dit zut. Vous êtes français ou vous n'êtes pas français? Qu'est-ce que ça veut dire, vous êtes français jusqu'à 1948? C'est clair. Bon, mais c'est surtout, en général, sur la première raison qu'on met l'accent. Ça veut dire qu'il y aurait un effondrement de la patience. Alors c'est pourquoi il y a une stratégie de ces rabbins qui savaient, qui est énorme de force morale. Alors qu'ils savaient que c'était pour plus que très longtemps, ils ont, de jour en jour, ils ont dit demain, aujourd'hui, et ils ont réussi à faire que leur peuple attendait demain, aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? C'est énorme comme force spirituelle. Et c'est ce serment-là. Kira? Non, ça veut dire que, je vais dire quelque chose d'énorme, mais j'anticipe un peu, que quand le moment est venu, ils n'ont cru que ce qui était concerné. C'est énorme, ce que je suis en train de vous dire là, mais on verra dans la suite. Seulement, Dieu donne des sourcils. Et nous sommes des sourcitaires. Seulement, il y a un rendez-vous. Eh bien, tu as vu ce qu'il y a écrit là, hein? On a juré de ne pas le dire. Je suis. C'est la même chose. Parce que, aussi, d'un point de vue purement théologique, c'est le mérite d'attendre sans savoir le temps. Parce que si on sait le temps, il n'y a pas de mérite. C'est aussi corollaire. Bon, ça va jusque-là. Je vous ai un peu répondu. Et une des citations du Grand de Vilna, c'est dans le Sifra d'Ismurata, que je vous citerai, et vous en avez d'ailleurs les copies, et vous dites très clairement, tu veux savoir la date, quand c'est en son temps, la voilà. Mais je t'adjure, au nom du Dieu d'Israël, de ne pas dire ce que tu as compris. Il ajoute lui-même. C'est clair. Et alors, je crois, je donnerai d'autres citations, par exemple, d'un rabbin de l'exil d'Espagne, qui a écrit un commentaire de Megillot en Italie, et dans un de ses commentaires, il donne la date très exactement, avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Il pouvait la donner parce qu'il savait très bien qu'on le croirait pas. Rappelez-moi que, pour la nuit d'étude de mardi soir sur Yom HaAtzmaout, que je vous donne cette référence. Quelqu'un m'en rappellera lundi, je la prépare mon mardi. Voilà donc, qui ne dévoile pas la fin, qui ne dévoile pas le Ketz, ça veut dire, et vous voyez, nous avons déjà un exemple supplémentaire parmi d'autres, que Ketz Hayamim, ça veut dire la fin des temps d'exil, toujours, dans tous les Midrashim. Ketz, c'est la fin des temps d'exil. Rappelez-vous dans la Gazette Pessa, chez Akadosh Baruch Hu, Chishev et Ketz, ça veut dire la fin des temps d'exil d'Égypte, dans la Gazette. Qu'est-ce que tu veux dire? Les trois premiers, oui.
Est-ce que c'est comme ça qu'il faut s'intéresser à ce moment de, vraiment à la fin, c'est la fin qui doit arriver? Parce que vous avez apparaître deux systèmes. Je ne sais pas si vous avez compris vraiment le mérite qui doit avoir le fait. Maintenant, le mérite, les nations dans lesquels Israël, ils doivent aussi conditionner cette apparition.
Absolument. 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 Ah oui, ce problème ne peut être compris que dans la dimension, encore une fois, du monothéisme total, qui a un lien absolu de l'événement messianique concernant Israël et de l'événement messianique concernant l'universel humain. C'est évident.
Je ne suis pas tellement fausse, bon, par exemple, le retour des Juifs sur la terre, ça demande aussi maintenant, à la maison, il y a deux signes qui ont été déjà faits. On attend que sur la terre, si on avait des signes à l'importance,
d'irréversibilité. Absolument. Le problème, ce n'est pas l'événement, il est là. Le problème, c'est comment l'individu, comment cet événement affecte l'individu. Et ça, c'est le mérite individuel qui est entre les mêmes personnes que de chacun. L'événement est irréversible. Est-ce que ça me concerne? Ça, ça dépend de moi. Mais l'événement pour Israël est irréversible. Ça se relie un peu. Très bien. Plus qu'un peu, d'ailleurs. Et reprends un peu le début de ce qu'il a dit tout à l'heure, parce que là, je voulais ajouter quelque chose, mais ça m'échappe maintenant. Ah, non, dans le caractère d'irréversibilité, je voulais ajouter quelque chose, qu'on verra par la suite. Ça ouvre encore une dimension vertigineuse. Parce que s'il en est ainsi, ça veut dire que la civilisation contemporaine est en train de disparaître comme les deux premières civilisations ont disparu à ce moment-là. Est-ce que c'est clair? Or, il y a, dans la problématique de la civilisation contemporaine, des signes d'ambivalence. Chaque fois que j'en parle, je suis obligé d'employer un vocabulaire très peu juif, mais enfin, on parle français. Peut-être je le recoderai en hébreu. Dans tous les cas, il me semble bien, personnellement en tout cas, je vous donne ça comme une option personnelle, que les signes de la catastrophe de la civilisation contemporaines sont plus grands que les risques, les chances d'espérance que ça fait en juif. Je ne sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que le tempérament juif est d'emblée optimiste. Mais les événements contemporains sont tels que peut-être il faut aménager cet optimisme. Et il devient d'une certaine manière mystique. Que l'optimisme ne peut plus être gardé que pour Israël et que pour la civilisation universelle, c'est le pessimisme absolu. Je ne sais pas comment dire ça. Dans les temps précédents, immédiatement précédents, si on se pose la problématique de Splenger, par exemple, le déclin de l'Occident, ou la problématique de Toynbee, parlant des mêmes problèmes avec des méthodes un peu différentes, que c'est la fin de l'Occident, alors on pouvait se dire, à moins que l'Occident ne se rattrape. Rappelez-vous cet écrivain russe qui s'est échappé de Russie, Solo... Vous avez lu son livre? Oui. Bon, alors lui, c'est catégorique. L'Occident se suicide. Alors, encore, du temps de ma jeunesse, je ne sais pas comment dire, avant la dernière guerre mondiale, on pouvait se dire, ou bien on se reprend, et c'est une civilisation qui mérite d'être sauvée, ou bien on ne se reprend pas, elle va disparaître. Mais au fur et à mesure que les événements passent, on se rend compte que c'est peut-être Solo... qui a raison. Je ne sais pas comment dire. Mais ne serait-ce que les journaux de chaque jour. Et voilà qu'aujourd'hui, la manchette de Marie ou d'Edio, je ne sais plus laquelle, c'est que l'Iran va avoir sa bombe atomique grâce aux Allemands. Bon, c'est... Et ça fait une nouvelle de journal. Alors que ça devrait faire une révolution dans les états-majors du monde entier. Est-ce que c'est clair ce que je dis là?
C'est douteux.
Douteux ou pas douteux? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la capacité d'espérance que l'on a. Ou alors ce que j'ai lu dans un magazine français il n'y a pas très longtemps, que ces fameux blessés iraniens par des gaz chimiques irakiens, c'est l'inverse, qu'ils ont été. Oui. Donc les blessés iraniens des armes chimiques irakiens, c'était l'inverse, que c'était une catastrophe qui a eu dans une usine iranienne. Et que les Iraniens s'en sont servis en propagande contre les Irakiens. Bon, des choses énormes. Ou par exemple, ce que j'ai entendu à la radio ce matin, avant ma journée de travail, avant votre journée de travail, c'est que la Russie envoie une armada contre les Afghanistes, contre les Afghans. Une armée énorme. Contre les Afghans. Et ça fait des nouvelles de journal. Voilà ce que je veux dire. Bon, alors ça se décide avec mille autres signes différents, la fin de Rome à Rome, la désespérance, je ne sais pas comment dire, mais vous comprenez ce que je veux dire, le manque d'espoir dans la jeunesse de cette civilisation occidentale, qui montre que ça va plutôt du côté de ce qu'on a dit tout à l'heure, quand Israël a quitté l'Égypte, fini, quand Israël a quitté la Perse finie, ça veut, ou la Grèce, ou Rome maintenant. Ça ne veut pas dire que ça continue pas en phénomène de rémanence. La civilisation perse, elle est arrivée jusqu'à nous, dans les musées et les palais des chats, par exemple, mais que c'est fini. Alors comment cette civilisation finira, j'en sais rien, je ne souhaite pas que. Mais je veux dire qu'on ne peut pas ne pas être plus pessimiste qu'optimiste. Ça je veux dire. Mais c'est pas halakh, hein. Ça c'est une opinion personnelle. Tout simplement parce que je fais partie de la génération d'avant l'autre guerre. Et que lorsqu'on voit un phénomène se répéter et continuer avec accélération, on ne peut pas se dire bon, ça va à l'éclatement. On ne peut pas. Quoi pourrait stopper ça? De quel mouvement spirituel pourrait stopper ça? On ne voit pas. Okay. Alors, il se produit un miracle de transfiguration du monde entier, dans cette relation à Israël et nations, d'ailleurs, dans ta question, où. Finalement, il faut se rabattre sur l'autre série de références que l'espérance du salut ne concernera qu'Israël et que la civilisation extérieure est perdue. Raison de plus pour faire ça à l'IA. Je ne sais pas si vous comprenez à quoi je parle.
Le chaos de Finland, qui avait prédit qu'en un quart d'heure, deux tiers de l'humanité sera détruite.
Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Et bon, ça, ces références-là, on les étudiera pas. Je ne tiens pas à ce que vous ayez trop de cauchemars, un petit peu, ça aide à vivre, mais trop, c'est trop. Bon. Alors là, on est arrivé à ce signe-là, qui est assez important, qui ne révèle pas la fin. Véchelo, il haku et taketz, qui n'éloigne pas la fin. Et nous verrons, à travers Rashi, qu'il y a deux manière de lire ce mot. Certains textes portent chez l'eau avec un dalet à la place du resh. Au lieu de irhaku, idhaku, avec dalet. Et ça veut dire au contraire avancer là. C'est-à-dire, là c'est très 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 fin comme différence entre un dalet et un resh. Mais ça rentre dans la même catégorie. C'est-à-dire, soit Israël n'avance pas la fin en priant trop, dit Rashi, soit qu'Israël ne retarde pas la fin en laissant passer les signes. Et ça, malheureusement, c'est ça qui est arrivé. Est-ce que c'est bon? Ça veut dire, dans les deux cas, il s'agit d'esquiver le rendez-vous. Et toujours, là, nous sommes dans la catégorie que si on ne mérite pas, que si on prend son temps. Les trois derniers signes, je pense que ça vaut la peine de le dire déjà, les trois derniers signes ont pour caractéristique que c'est dans le cas où on ne mérite pas. Parce que les trois premiers, ça peut être aussi dans le cas où on mérite. Mais là, on parle dans le cas où on ne mérite pas, alors c'est en son temps vraiment. Vous voyez, c'est clair? L'indice des trois premiers signes, c'était le retour collectif. Mais il pouvait se faire, même avant la fin dernière, si on méritait. Les trois derniers signes parlent du temps où on ne mérite pas, donc ça ne se fera qu'au Ketzmegoulé, c'est-à-dire à la fin dernière. Et c'est surtout à partir de l'école des kabbalistes de Safed qu'on a mis l'accent sur les trois derniers signes, c'est-à-dire l'éventualité des trois derniers signes, parce que le dernier grand rendez-vous manqué, c'était le rendez-vous.